Pour comprendre cela, j'ai écrit effectivement, comme l'a dit
Marie-Christine,
que je remercie de sa présentation, j'ai écrit donc ce livre, Chronique biblique au féminin, qui est paru à la fin de 2013, et dont je vais vous parler peut-être dans un second temps. Les femmes de la Bible sont peu nombreuses. On a souvent dit, on a souvent reproché d'ailleurs à la littérature biblique d'être, alors on a dit misogyne, peu équitable pour les femmes. Il y a en effet beaucoup moins de femmes, beaucoup moins d'héroïnes bibliques que de héros masculins, que d'hommes. Le fait est que les héroïnes de la Bible évoluent dans un monde qu'on appelle un monde patriarcal, une société patriarcale. La société de la Bible, comme toutes les sociétés à travers l'histoire, et la géographie d'ailleurs, est en effet une société patriarcale, c'est-à-dire, je rappelle, mais enfin je pense que vous le savez bien, une société dans laquelle la parole et le pouvoir appartiennent aux hommes. C'est une constante, vous pouvez parcourir, comme je viens de le dire, toutes les époques, depuis l'Antiquité gréco-romaine, l'Antiquité orientale, jusqu'aux sociétés modernes, eh bien, ça a toujours été le cas. Les hommes ont toujours eu le pouvoir et la parole. Ça n'est donc pas une originalité ou une spécificité de la Bible. Ce qui relativise déjà les reproches ou les critiques, parfois acerbes, que l'on peut faire à la Bible, de ce point de vue-là. Je vais peut-être commencer par un petit panorama des femmes de la Bible et par vous dire aussi quel a été mon point de départ dans l'écriture de ce livre. Ces femmes qui vivent depuis Ève la première jusqu'à Esther ou Ruth ou Abigaïl ou les femmes de David, qui vivent dans un monde où elles ne sont pas des décideuses, hein, dans une société où elles ne sont pas non plus indépendantes, puisque ces notions-là sont des notions éminemment modernes. Et quand je dis éminemment modernes, je rappellerai simplement qu'elles sont d'abord propres à l'Occident, vraiment propres à l'Occident. Je rappellerai qu'elles sont récentes, puisque rappelez-vous que le droit de vote a été donné aux femmes en France en 1946, c'est-à-dire il y a à peine un demi-siècle, que jusqu'en 1967, si j'ai bonne mémoire, la contraception, qui paraît tellement naturelle et tellement normale aux femmes de notre époque, la contraception était interdite, n'existait pas en France. Qu'une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque. Ma voix s'est démultipliée. Qu'une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari, etc., etc. D'accord ? Donc, ce sont des choses auxquelles nous nous sommes habitués, que nous considérons aujourd'hui en Occident comme des choses normales, dont nous sommes extrêmement heureuses et heureux. Je dois dire que ces bienfaits-là que nous a apporté la société occidentale profitent aux femmes, c'est vrai, mais profitent également aux hommes. Je définirais cela comme une amélioration de la société dans son ensemble et profite également aux enfants. Donc, ce sont des notions éminemment modernes. Ces notions également d'égalité entre les sexes sont des notions, est aussi cette notion d'égalité entre les sexes, qui d'ailleurs est loin de faire l'unanimité dans notre monde, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une notion aussi éminemment moderne. Mais, lorsque on lit la Bible, et plus précisément lorsqu'on la lit dans sa langue d'origine, c'est-à-dire en hébreu, on s'aperçoit, premièrement, que les choses ne sont pas aussi simples et aussi plates que le laissent entendre les traductions. Qu'il y a des pistes de sens, des passerelles de sens qui s'ouvrent à travers les mots hébraïques, d'une part, mais aussi à travers la tradition de lecture juive. Je veux dire par là que chez les juifs, on ne lit pas la Bible, on l'étudie En d'autres termes, quand on dit en général en français lire quelque chose, c'est prendre connaissance d'une chose dont le sens est là, à fleur de texte, à fleur de ligne, à fleur de mot. La Bible ne se lit, d'ailleurs, pas seulement la Bible, la Bible est un texte littéraire quel qu'il soit, ne se lit pas, il s'étudie. Autrement dit, il dit plus que ce qu'il semble dire au premier abord. Ou encore, il n'y a pas un sens d'un texte, et particulièrement d'un texte biblique, il y en a plusieurs. Et c'est sur ce postulat de la polysémie des textes bibliques, de la multiplicité de leurs sens, et non pas de leur fermeture ou de leur clôture dans un sens qui serait un sens définitivement donné, c'est sur ce postulat-là que se construit ce qu'on appelle la lecture juive. En d'autres termes, j'ai utilisé un terme hébraïque que vous connaissez sûrement, qui est le terme midrash. Le midrash, la lecture midrashique. Lorsque j'ai formé le projet d'écrire ce livre, j'avais plusieurs objectifs et plusieurs objectifs en vue. Le premier, c'était précisément, très simplement, c'est le plus simple peut-être, de donner la parole à ces femmes bibliques qui ne l'avaient pas beaucoup. Il y a des femmes de la Bible qui parlent dans le texte biblique. Il y en a d'autres qui ne parlent pas du tout, qui sont simplement évoquées à titre de personnages ayant un rôle plus ou moins important à jouer dans un récit. Il y en a qui n'ont même pas de nom. Il y en a qui sont évoquées simplement sous le vocable de la femme de un tel, par exemple la femme de Noé ou la femme de Lot. Donc, donner la parole, ça a été, si vous voulez, l'objectif premier, dans tous les sens du mot, premier dans le temps, et aussi premier au sens de principal de l'écriture de ce livre. Mais, d'autre part, autre objectif, si vous voulez, je voulais explorer ce que des femmes d'un autre monde, le monde biblique, c'est un autre monde que le nôtre. Ce que ces femmes, et à travers elles aussi les hommes, de ce monde tout à fait différent du nôtre, pouvaient avoir à nous dire, à nous, femmes et hommes du XXIe siècle, engagés dans un monde dont les conditions, les critères, les valeurs, parfois aussi, sont extrêmement différents. Et en fait, je voulais voir si la différence sociétale, qui est celle qui existe entre la société biblique et la société d'aujourd'hui, faisait que ces femmes n'auraient éventuellement plus rien à nous dire. Et je me suis aperçue avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion aussi, que la différence ou l'extrême éloignement entre ces femmes et ces hommes et nous-mêmes, eh bien, n'épuisait pas du tout la possibilité de rencontre et la possibilité, on va dire, de ressemblance. Alors, la manière dont j'ai procédé, elle a été double. Mais cette double manière de procéder, elle a été aussi... Ce sont deux manières qui ont été complémentaires l'une de l'autre et qui se sont enrichies l'une de l'autre. Le premier procédé, ça a été de lire le texte biblique, mais de le lire à la manière d'une étude, comme je l'ai écrit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai exploré le texte biblique lui-même, tel qu'il est écrit, dans les mots qu'il a utilisés, dans tout ce qu'il y avait à remarquer. Et là, mon métier d'enseignante de français, évidemment, se fait sentir, dans tout ce qu'il y avait à remarquer au point de vue stylistique, au point de vue de l'écriture, au point de vue de la construction des phrases, au point de vue d'un mot qui semblait manquer ou d'une redondance, explorer tous ces indices qui, de façon générale pour la lecture midrashique, pour la lecture juive, sont précisément des indices porteurs de sens. Rien, la lecture midrashique, si vous voulez, mais d'une certaine façon, une lecture littéraire également, postule qu'il n'y a rien qui soit gratuit dans un texte, que tout est porteur de signification. Ça a été la première méthode, si vous voulez. Et ensuite, c'est pas dans un deuxième temps, mais de façon complémentaire, j'ai essayé de me projeter, me propulser dans la tête, dans le cœur, dans les entrailles de ces femmes et de me demander ce qu'elles pouvaient avoir pensé ou dit, comment elles pouvaient avoir réagi à telle ou telle situation. Alors, je vais peut-être tout simplement, pour que ça soit plus clair à vos yeux, prendre un exemple, ou plusieurs exemples. Le premier qui se présente à l'esprit, c'est aussi le premier qui apparaît, le premier personnage féminin qui apparaît dans la Bible, c'est le personnage d'Ève. Et précisément, le personnage d'Ève est celui, certainement, qui a été le plus l'objet de malentendus, de méprises, de lectures erronées ou, on va dire, d'interprétations en rupture avec ce que dit le texte biblique. D'abord, le personnage d'Ève, je me suis aperçue d'une chose, c'est que ce personnage-là, à aucun moment, ne prend la parole, ou du moins, plus exactement, à aucun moment ne s'adresse à celui qu'on appelle Adam. D'accord ? Il n'y a pas, à aucun moment, il n'y a de dialogue entre ce premier homme et cette première femme. Or, il y a, bel et bien, elle parle, Ève parle à un moment, mais elle parle à qui ? Elle parle à ce personnage étrange, mystérieux, qui s'appelle dans le texte biblique le serpent. D'accord ? Cette absence de parole entre les deux partenaires du premier couple, dont je précise quand même qu'à mes yeux, il n'est pas le premier couple chronologiquement parlant, mais le premier couple symboliquement parlant. Donc un couple symbolique de ce que peut être ou ne peut pas être ou ne doit pas être un couple digne de ce nom. Ce premier couple, donc qui ne parle pas, s'inscrit en faux contre quelque chose qui est dit à deux reprises dans le texte biblique et qui est la chose suivante, c'est que la fonction première de ce couple, de cette femme et de cet homme, c'est précisément une fonction de dialogue. Où est-ce dit dans les, je parle ici de ce qui se passe dans les deux premiers chapitres de la Bible, enfin de la Torah, ce qui s'appelle chez les Juifs la Torah, eh bien, où est-ce dit d'une part, dans le projet que formule la voix divine, et d'autre part, dans sa réalisation, où il nous est dit, et c'est souvent mal traduit, même toujours mal traduit, où il nous est dit la chose suivante, c'est que le personnage premier, Adam, alors je dis exprès Adam, et je vais vous dire dans un instant pourquoi, ce personnage premier, il n'est pas bon qu'il soit seul, il devra y avoir en face de lui quelque chose qui en hébreu s'appelle Ezer. Alors Ezer, en général, on le traduit par une aide. Or, Ezer ne veut pas dire aide, mais allié. Vous allez me dire que je pinaille sur les mots, mais pas du tout, parce que aide, le sens du mot aide, qu'est-ce que c'est qu'une aide ou un aide ? C'est quelqu'un qui vient en secondairement, qui vient apporter un renfort à celui qui est là principalement. Dans aide, il y a l'idée d'une secondarité, dans le temps, mais aussi dans l'importance. Alors que dans allié, ezer, le terme allié, indique immédiatement deux personnes, deux êtres, deux êtres qui sont sur le même plan. Deux personnes alliées, deux rois alliés, deux chefs de guerre alliés se situent sur le même plan. Il n'y a pas un vassal, un suzerain, un plus haut que l'autre et un plus bas que l'autre. Ça, c'est la première chose. Et le terme hébraïque est double. Ezer, un allié, Kenegdo, là aussi, le sens est double, en face de lui, mais aussi contre lui. Autrement dit, la première fonction qui est définie comme étant celle des partenaires d'un couple, c'est une fonction de